Radio Estable.
Es morning edition from NPR News.
Es un
radio resonante
perdido. Lo que se reproduce en esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Et voici un jour dans le monde jusqu'à 19h au programme Escale Reportage, le Maroc à Fès avec Nabila El Haddad. On va découvrir un centre qui accueille des femmes et les aide dans leur volonté d'émancipation. Sous les radars de l'actualité, Amélie Perrier et puis le monde à l'envers, Cyril Sauvageau. Ce soir, l'Éthiopie qui veut se doter d'une marine, même si ce pays n'a pas d'accès à la mer, la France pourrait participer à ce projet. Mais tout de suite, le Venezuela.
Pierre Veil. Un jour dans le monde.
Et notre invité dans les studios de France Bleu Provence à Aix-en-Provence, c'est Thomas Posado. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques à l'Université Paris 8, spécialiste du Venezuela. Vous publierez prochainement aux presses universitaires de France un ouvrage « Amérique latine, la fin de l'âge d'or des gouvernements progressistes ». Alors, revenons sur la situation actuelle au Venezuela. Juan Guaido, le président du Parlement et président autoproclamé, appelle à manifester samedi contre le régime de Nicolas Maduro. Maduro y s'accroche au pouvoir, bien qu'à affaibli. L'armée lui reste globalement fidèle. À l'étranger, il a le soutien de la Russie et de la Chine. Est-on dans une impasse actuellement au Venezuela ?
Pour l'instant, oui. Pour l'instant, on a deux camps qui campent sur des positions extrêmement dures. D'un côté, Nicolas Maduro n'est prêt à aucune ouverture. La seule chose qu'il a proposé, c'est de renouveler les élections parlementaires, qui est la seule élection où il n'est pas majoritaire, hein, où Juan Guaido est le président de l'Assemblée nationale. Et de notre côté, on n'a aucune volonté de négociation du côté de Juan Guaido. Au contraire, une escalade derrière ce qu'ils appellent la cessation de l'usurpation. Et donc, d'un côté et de l'autre, on n'a aucune perspective d'une solution négociée. L'Uruguay et le Mexique avaient proposé une solution qui à la fois reconnaît Nicolas Maduro mais condamne les violations des droits de l'homme et appelle à tout le monde à se mettre autour d'une table. L'Union européenne avait participé à cette conférence à Montevideo, mais pour l'instant à l'intérieur du pays, ni Nicolas Maduro ni Juan Guaido ne sont pour l'instant prêt à faire des réelles concessions pour qu'une solution négociée advienne au Venezuela.
Mais est-ce qu'il y a actuellement au Venezuela deux pouvoirs ? Et si oui, comment ça fonctionne avec ce président du Parlement autoproclamé et puis un président qui a été élu dans des conditions discutables, Nicolas Maduro ?
Non, aujourd'hui au Venezuela, il y a un seul président effectif qui est Nicolas Maduro, c'est-à-dire que toutes les institutions publiques obéissent à Nicolas Maduro. Ce que fait Juan Guaido, c'est davantage d'un côté symbolique, essayer de déstabiliser Nicolas Maduro, appeler à l'insoumission de militaires, il appelle à une grève des travailleurs du secteur public, il a le soutien d'une cinquantaine d'États dans le monde qui le reconnaissent comme le chef de l'État. Les sanctions des États-Unis qui bloquent la principale source de liquidité pour le gouvernement vénézuélien, à savoir l'entreprise Citgo, qui est une entreprise qui a des milliers de stations-service aux États-Unis, des raffineries aux États-Unis, mais qui est propriété de l'État vénézuélien, et où l'administration Trump a dit cet argent, du coup, il doit revenir à l'administration Guaido. C'est ça, hein, le pouvoir de Juan Guaido, c'est ce pouvoir de déstabilisation. En soi, au Venezuela, personne n'obéit en soi à Juan Guaido.
Alors, vous évoquez les sanctions américaines visant le Venezuela. La stratégie de Donald Trump et de son administration, c'est on va étrangler économiquement le Venezuela et le gouvernement de Maduro va tomber ?
Complètement. On a une stratégie du gouvernement de Trump qui est la plus belliciste de tous les États dans le monde par rapport au Venezuela, même s'il y a une cinquantaine qui ont reconnu Juan Guaido comme président. Il y a une volonté d'asphyxier économiquement qui n'est pas nouvelle. Dès août 2017, Donald Trump a demandé, a imposé par la loi à ce qu'aucune entreprise et aucun citoyen américain ne contracte des prêts à l'égard de Caracas et de l'entreprise publique pétrolière PDVSA. Donc, on a une crise économique qui est déjà extrêmement grave au Venezuela et dont la principale responsabilité incombe à Nicolas Maduro. Mais les décisions de l'administration Trump, sous prétexte de faire tomber le gouvernement de Maduro, elles aggravent encore les conditions de vie de la population vénézuélienne qui subit des pénuries d'aliments, de médicaments absolument terribles.
Mais est-ce qu'on peut imaginer une intervention militaire des États-Unis au Venezuela ? On dit qu'une arrestation de Juan Guaido pourrait déclencher une telle intervention. Est-ce que vous y croyez ?
Pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y a pas d'exercice militaire. Tous les alliés de Washington dans la région, de la Colombie au Brésil. Au Brésil, on a un président d'extrême droite qui n'est pas reconnu pour être nuancé. Et pourtant, il est contre cette intervention militaire des États-Unis. Il n'y prêterait pas son concours parce qu'elle aurait des conséquences dramatiques pour la région. On a déjà plus de 3 millions de Vénézuéliens qui sont partis de leur pays. Ce serait un flot de personnes encore plus important si une intervention militaire était déclarée. Au sein même des États-Unis, tous les démocrates sont hostiles à une intervention militaire. Il n'y a que quelques personnes autour de l'administration Trump, des personnes que Trump a promues, hein, c'est-à-dire des personnes comme Elliot Abrams, des personnes comme John Bolton, qui faisaient partie des faucons pendant la guerre en Irak, pour la Contra au Nicaragua, et qui reviennent avec des positions de pouvoir dans l'administration Trump, avec une volonté de menacer militairement le gouvernement Maduro. Pour l'instant, cette menace, elle ne me semble pas effective, et elle ne me semble pas faisable à court ou moyen terme. On est dans une situation qui est toutefois tellement dramatique, où il y a tellement de possibilités d'excès un peu spontané, une paranoïa un peu généralisée dans les deux camps, que les incidents ils peuvent exister, hein, et personne ne sait comment cette situation va évoluer pour le meilleur comme pour le pire.
Thomas Posado, je rappelle, un spécialiste du Venezuela, docteur en sciences politiques à l'université de Paris 8. Vous évoquiez les réfugiés vénézuéliens, ceux qui sont partis, près de 3 millions. Où sont-ils actuellement? Dans quel pays? Et comment s'organise l'aide à cette population immense, 3 millions?
Alors, tous les 3 millions, ils sont évidemment pas dans le même pays. Principalement, ils sont en Colombie, qui est le pays voisin, où il y a des liens extrêmement forts, hein, où il y a beaucoup de réfugiés colombiens au Venezuela dans les années de guerre civile, ou dans les années de pénurie économique, de crise économique en Colombie. Il y en a d'autres qui sont en Équateur, au Pérou, un peu moins au Chili, au Brésil. Pour les plus fortunés, bah, peut-être aux États-Unis ou en Europe. Pour l'instant, ils sont accueillis plutôt mieux, hein, que ce qu'on peut avoir comme réaction en Europe par rapport à nos réfugiés. Par contre, il y a quelques réflexes xénophobes qui commencent à émerger. À la frontière brésilienne, il y a eu des pogroms en août dernier contre un camp de Vénézuéliens. Il y a certains gouvernements qui pensent à demander un passeport aux Vénézuéliens, ce qui semble quelque chose d'anodin, mais qui en fait, vu la situation économique et vu les millions de personnes qui demanderaient potentiellement un passeport, et l'État vénézuélien ne serait absolument pas en mesure de répondre à cette situation, des passeports qui coûtent extrêmement cher, ce qui condamnerait les Vénézuéliens à l'illégalité et transformerait ces millions de personnes en sans-papiers dans le territoire latino-américain. Donc on est dans une situation qui pour l'instant reste administrée plus ou moins dans l'urgence par les exécutifs latino-américains, mais qui pourrait avoir des tonalités beaucoup plus dramatiques, voire même des tonalités xénophobes dans les mois et les années à venir.
Alors, on l'a vu, hein, ce président du Parlement et président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido, s'est organisé des manifestations qui rassemblent beaucoup de monde. Est-ce que vous avez le sentiment qu'une très très large majorité de Vénézuéliens rejette totalement aujourd'hui Nicolas Maduro? Parce qu'on voit souvent des images de Caracas, mais dans l'ensemble du pays, c'est vraiment le rejet total de Maduro et du chavisme.
D'une manière générale, dans le pays, on est épuisé par une crise économique qui est dramatique, où on a 6 ans de récession, où on a plus d'un 1 000 000% d'inflation, où on a un pouvoir d'achat qui est laminé. Il y a un noyau dur, on estime autour de 20% de la population qui soutient Nicolas Maduro. Sans doute que Nicolas Maduro n'est pas majoritaire, sans doute non plus que Juan Guaido n'est pas majoritaire. Il faudrait des élections pour l'évaluer réellement. Les sondages, ils donnent qu'il y a des larges majorités contre Nicolas Maduro et contre une intervention militaire étrangère. Donc il y a un bon sens vénézuélien, hein, qu'on a envie de sortir de cette crise, pas par une option militaire, par une option pacifiée, et que Nicolas Maduro, visiblement, n'a pas fait ses preuves pour sortir de cette crise économique. De toute façon, enfin, tant qu'il n'y a pas une élection transparente où l'ensemble des candidats puissent se mesurer, qui ne soit pas organisé par un camp contre l'autre ni par un autre camp contre l'un, c'est difficile de savoir qui est majoritaire, qui l'est pas. On s'appuie sur des sondages qui ont une base aussi propagandiste que scientifique, et plus propagandiste que scientifique, disons. Donc c'est extrêmement difficile d'évaluer cette chose-là. Ce qui est certain, c'est que la population est épuisée par une crise économique qui est complètement dramatique pour elle, et qu'elle veut sortir de cette situation.
Quelle est actuellement la position de l'armée? Guaido dit que 600 officiers ont rejoint son camp de président autoproclamé, donc quitté Maduro. L'armée, quel est son pouvoir? Et est-ce qu'elle peut, selon vous, à un moment donné, basculer et renverser Nicolas Maduro?
C'est ce qu'espère Juan Guaido depuis maintenant un peu plus d'un mois. C'est ce qu'il n'a pas obtenu maintenant depuis un peu plus d'un mois. Depuis le 23 février, donc depuis cette mise en scène d'une aide humanitaire qui n'est pas arrivée aux frontières du Venezuela, il y a eu effectivement un phénomène de désertion. Alors les instances migratoires colombiennes parlent d'un peu plus de 600 effectivement soldats qui auraient déserté. Du côté du gouvernement vénézuélien, on parle d'un peu plus d'une centaine de soldats qui auraient déserté. Les chiffres, ils sont relativement importants, mais sur un effectif de plus de 350 000 soldats, donc c'est relativement réduit en fait. Et ce sont des désertions, c'est pas des bataillons qui s'engagent de notre côté de la frontière pour combattre l'armée vénézuélienne. Pour l'instant, c'est des désertions individuelles de personnes qui subissent la crise comme les autres, c'est-à-dire que autant les officiers et les hauts gradés dans l'armée vénézuélienne ont gagné des marges de manœuvre sous le gouvernement de Nicolas Maduro, qu'ils n'avaient pas sous Hugo Chavez, ont gagné des directions d'entreprises nationalisées, ont gagné des postes dans le gouvernement, il y a un tiers des ministres qui est d'origine militaire. Autant les bas gradés, ils subissent la crise comme le reste de la population vénézuélienne, de manière peut-être un peu moins intense, leurs salaires sont versés en temps et en heure, peut-être un peu mieux payés, mais ils subissent cette crise également. Et qu'est-ce que peut faire un individu qui est soumis à des moments de pénurie d'aliments, de pénurie de médicaments, qui a peut-être de la famille malade, qui voit son pouvoir d'achat complètement laminé, un pouvoir d'achat qui au Venezuela ne permet pas d'acheter deux boîtes d'œufs par mois, donc on survit de petits trafics, de solidarité dans son quartier, etc. Qu'est-ce que peut faire des individus comme ça? C'est ça qui rend la situation complètement imprévisible, parce que ces personnes-là sont à bout dans leur vie quotidienne et dans leur équilibre pour respecter leurs besoins les plus élémentaires.
Donc là, on constate que les hauts gradés de l'armée ont aussi des intérêts économiques à défendre pour eux, comme ça se passe dans d'autres régimes autoritaires, dictatures. Je pense à l'Algérie actuellement, on voit bien que l'armée défend le régime, ou l'Égypte du maréchal Sissi. Donc pour vous, il y a quand même des responsables militaires au Venezuela qui se portent bien financièrement, qui ont profité du pétrole et qui souhaitent continuer à bénéficier des avantages de ce régime de Maduro.
Dans les hauts gradés, indéniablement. Avec l'Algérie, il y a beaucoup de points communs. Il y a un point commun d'avoir deux économies qui sont rentières, qui dépendent à plus de 95% de leur exportation de pétrole, d'avoir un pouvoir qui a dérivé doucement mais sûrement vers des formes plus autoritaires du pouvoir, une industrie pétrolière qui produit moins en soi et qui subit en plus la baisse des cours du pétrole. Alors une crise qui est en fait beaucoup plus grave au Venezuela qu'elle l'est en Algérie, mais les deux révoltes qui se passent au Venezuela et en Algérie, elles ont des points communs et c'est pas un hasard hein, si elles sont en ce moment simultanées. Alors elles sont pas coordonnées, mais elles sont avec les mêmes raisons, c'est-à-dire l'effondrement d'une économie rentière. Pour l'Égypte, je pense qu'il y a un ordre autoritaire qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus implacable, qui ne tolère aucune opposition que ce qui ne se passe aujourd'hui au Venezuela.
Alors cette crise économique que vit le Venezuela, est-ce qu'elle est due uniquement à la chute des cours du pétrole? Je rappelle que le Venezuela, c'est le premier exportateur de pétrole dans le monde. Ou est-ce qu'il y a, selon vous, d'autres raisons qui expliquent cette faillite sociale et économique dans ce pays?
Disons que le caractère rentier de l'économie vénézuélienne, il explique ces cycles d'abondance et de crise. Ces cycles d'abondance pendant les années de Chavez, où il y a eu un baril supérieur à 100 dollars, on a eu un cycle d'abondance, cycle de crise à partir du moment où il y en a une inversion des cours du pétrole. Ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela, c'est qu'effectivement, il y a d'autres phénomènes qui renforcent cette crise et qui lui donnent son ampleur inédite. C'est notamment un effondrement de la monnaie. Quand je dis que le pouvoir d'achat est laminé, c'est que la monnaie, depuis 2012, a perdu 99,99% de sa valeur. C'est quelque chose qui est difficilement imaginable et ce qui est en grande partie le fait que dans les années 2003, il y a eu des tentatives de renversement de Chavez, antidémocratique, de l'opposition, où Chavez, en ce moment-là, a mis en place un contrôle d'échange qui octroyait des dollars à taux préférentiel pour des entreprises et un taux de change qui a été détourné par des entreprises, par des proches de Chavez puis de Nicolas Maduro. On a appelé ce qu'on appelle la création d'une bolie bourgeoisie, qui ont détourné des centaines de milliards par des importations surfacturées, par des importations qu'elles ne faisaient pas, et qui se sont enrichies de plusieurs centaines de milliards de dollars aux dépens de l'État vénézuélien et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, plus personne ne croit en la valeur de la monnaie vénézuélienne. Quand vous avez une économie qui est rentière et on ne croit plus à la valeur de sa monnaie, c'est très difficile d'importer des aliments, c'est très difficile d'importer des médicaments parce qu'il n'y a pas d'agriculture ou d'industrie pharmaceutique sur place qui font importer ces aliments, qui a une population de 30 millions de personnes derrière et où du coup, on a une situation de crise, de pénurie et où toutes les nouvelles décisions entérinent une aggravation de la crise et où visiblement Nicolas Maduro a pris des mesures soit trop tardives, soit à contresens, mais n'a pas pris les mesures qui permettaient d'enrayer cet effondrement démentiel de la monnaie vénézuélienne.
Mais justement, Thomas Posado, vous parlez de l'attitude de Nicolas Maduro, il voit ces images, il voit son pays, ces gens qui vont dans des magasins, il n'y a rien à acheter, plus rien, les hôpitaux sont complètement délabrés, c'est une situation économique désastreuse. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il propose? Soyez patient, c'est un mauvais moment à passer, on s'en sortira. Quelle est sa réponse?
Oui, il propose, soyez patient. Après, comme ça fait plusieurs années qu'il propose, du coup, la population perd un petit peu patience. Il a réorienté l'essentiel des programmes sociaux que faisait Hugo Chavez en termes d'éducation, de santé, de logement, vers ce qu'il appelle les CLAP, c'est-à-dire une bourse de nourriture qui permet d'alimenter des plusieurs millions de foyers vénézuéliens, grosso modo tous les mois, de manière plutôt irrégulière, de manière assez clientéliste, mais qui permet d'avoir un panier d'aliments de subsistance pour des millions de Vénézuéliens, ce qui permet à la fois d'entretenir ce noyau dur de partisans, de gens qui sont convaincus que Nicolas Maduro est légitime et doit rester à la tête du pays, et ce qui permet de donner un peu des arguments à cette patience dont vous parlez à l'égard des Vénézuéliens. Il y a cette dimension à la fois de maintenir ces programmes sociaux de manière irrégulière et clientéliste et à la fois une volonté de d'euphémiser, voire de nier l'ampleur de cette crise dans une situation où ses marges de manœuvre sont de plus en plus réduites. On a un pays qui produit de moins en moins de pétrole, autour de 1 million de barils par jour, alors qu'il en produisait 3 millions de barils il y a encore quelques années par jour. On a un pays qui est extrêmement endetté. Un des enjeux de la polarisation d'un côté des États-Unis, d'un autre côté de la Russie et de la Chine, c'est qui sera prioritaire dans les remboursements du Venezuela post-crise, dans un scénario où on sait très bien que cette dette sera restructurée. Et on a un État qui est en défaut partiel de paiement, donc les marges de manœuvre aujourd'hui de Nicolas Maduro, elles sont extrêmement étroites et plus la crise politique se développe, plus Washington empêche Caracas d'avoir accès à des liquidités, plus cette crise s'aggrave avec des conséquences dramatiques pour la population.
Dernier point, Thomas Posado, on connaît maintenant cet adversaire de Nicolas Maduro, c'est Juan Guaido, mais vous le connaissiez, cet homme, finalement, il est apparu sur la scène, il s'est autoproclamé président, il est devenu président du Parlement, ce 39 est-ce qu'il a une expérience politique qui lui permettrait d'exercer ce mandat de président? C'est quand même un inconnu au Venezuela.
C'était un inconnu jusqu'en janvier. Oui. Il est devenu président à partir d'un accord parlementaire qu'avaient mis en place les principaux partis de l'opposition où un an tu gouvernes toi, un an je gouverne moi, un an tu gouvernes l'autre. Et du coup, le tour arrivé à Voluntad Popular, donc le parti de Juan Guaido, et le principal leader de Voluntad Popular est assigné à résidence, Leopoldo López. Donc c'est Juan Guaido qui était un peu un inconnu. Alors il a eu une participation à des mouvements étudiants contre Chavez dès 2007, donc il a une certaine expérience en politique, mais pas au plus haut niveau des responsabilités. Et ce qui induit la stratégie qu'il a mis en œuvre, c'est que Voluntad Popular est connu au Venezuela pour être le parti avec la stratégie la plus intransigeante à l'égard de Nicolas Maduro. Les autres partis, Action Democratica ou Primo Justicia, ont des positionnements plus modérés, qui seraient peut-être à même de d'ouvrir des négociations avec Nicolas Maduro. Juan Guaido et son parti, Voluntad Popular, c'est la frange la plus opposée, la plus intransigeante à Nicolas Maduro, ce qui explique bien l'escalade des tensions depuis un peu plus d'un mois, et ce qui explique bien l'impasse dans laquelle on est, c'est-à-dire où on a d'un côté des revendications extrêmement radicales de l'opposition, de notre côté un maintien de Nicolas Maduro sur ses positions, et entre les deux, à peu près aucune solution pour régler une crise politique qui est extrêmement grave et qui ne permet pas de relancer une machine économique qui est pourtant au point mort.
Merci Thomas Posado, je rappelle, docteur en sciences politiques à l'université Paris 8, spécialiste du Venezuela, qui était dans les studios de nos amis de France Bleu Provence à Aix-en-Provence.
France Inter, Pierre Veil. Un jour dans le monde.
À suivre dans Un jour dans le monde, le Maroc et la ville de Fès. Ce sera l'escale reportage et un centre qui soutient des femmes qui veulent leur émancipation au Maroc. Reportage de Nabila El Haddad. Amélie Perrier sous les radars de l'actualité. Et puis bien sûr, le monde à l'envers. Cyril Sauvageau, bonsoir Cyril.
Bonsoir.
L'Éthiopie. L'Éthiopie qui intéresse la France.
Oui, Emmanuel Macron se déplace en Afrique de l'Est en début de semaine prochaine, va voir le jeune Premier ministre éthiopien qui est en train de réformer son pays à grande vitesse, et il sera notamment question de défense, de coopération militaire, puisque l'Éthiopie veut développer une marine, alors que l'Éthiopie n'a plus accès à la mer depuis l'indépendance de l'Érythrée. Ce sera un des sujets dont va parler Emmanuel Macron.
Cyril Sauvageau, tout à l'heure, 18h55, le monde à l'envers. Il est californien, il s'appelle Nick Waterhouse, et sur son quatrième album, il y a une musique superbe qui nous fait remonter le temps. On retrouve la pop musique cinglante des années 60, vous savez, les Who, les Them, les Stones, les Animals, guitare avec la bonne résonance d'un garage, des chœurs, et bien sûr l'indispensable saxophone. Souvenir, souvenir, c'est Song for Winners. Ça sonne vraiment en rétro, mais c'est tout récent, hein. C'est le dernier album, le quatrième album de Nick Waterhouse, un extrait donc, Song for Winners.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
sous les radars de l'actualité avec Amélie Perrier. Amélie, le 8 mars, demain, journée de lutte pour les droits des femmes, c'est l'occasion pour beaucoup d'entreprises commerciales de récupération pas toujours très fine.
Alors en voici une, un peu moins choquante quand même. Les poupées Barbie, on en parle ici parfois, ont élargi leur catalogue. Fini le modèle unique de la blonde aux jambes interminables et à la taille beaucoup trop fine pour être réaliste. On a vu apparaître des poupées plus rondes, noires, voilées. Et celle qui vient d'être révélée, eh bien, elle est Maori, inspirée d'une certaine Melody Robinson.
So Melody Robinson from Sky Sports joins us now. And Melody, for viewers who are not that familiar with rugby, why is this game so important?
Hey, this is hugely significant for international rugby because if the All Blacks.
Alors voilà, vous l'entendez ici, Melody Robinson à la télé américaine. Oui, c'est une ancienne championne du monde de rugby avec la Nouvelle-Zélande. Elle est aujourd'hui journaliste sportive, commentatrice réputée, interrogée ici donc comme une experte du rugby mondial. Et la voici qui réagit à sa propre poupée Barbie.
It is very very cool. I still can't really believe it.
C'est très très cool, dit-elle. J'ai du mal à le croire. Bien sûr, j'ai grandi avec des Barbie toutes blondes. Elles ne me ressemblaient pas du tout. Et là, on a un modèle, ancienne Black Fern, ce sont les All Blacks féminines, et elle est commentatrice. Alors c'est la double fierté de Melody Robinson, son physique, sa couleur et sa profession. Car elle croit dans le rôle que jouent ces poupées sur l'avenir des petites filles, sur leurs envies professionnelles, sur leur réalisation. Et c'est bien le but des She-Ro, des Barbie Mattel. She-Ro, c'est le mot valise, contraction entre She, elle, et Hero pour héros. Ainsi, la marque présente sur son site tous ses modèles bien réels, de la danseuse Misty Copeland à la scientifique grecque Eleni Antoniadou, en passant par l'artiste Frida Kahlo, notre chef cuisinier, la française Hélène Darroze ou la championne d'escrime voilée, l'américaine Ibtiaj Mohammad. Entreprise commerciale donc, mais pas forcément inutile cette fois-ci.
Un autre palmarès, Amélie, beaucoup moins enviable.
Celui des villes les plus polluées de la planète, c'est un rapport de Greenpeace. Et parmi les 30 premières places, 22 sont occupées par des villes indienne. Sur la première marche du podium, Gurugram, rebaptisé Gurgaon en 2016, c'est une ville d'affaires. Viennent ensuite d'autres métropoles indiennes, quelques pakistanaises ou chinoises, mais c'est vraiment l'Inde qui suffoque. New Delhi est 11e, c'est la capitale à l'air le plus pollué au monde. Pourtant, les autorités sont conscientes du problème. Écoutez le ministre des Transports indien.
Vous me demandez toujours de mener une politique claire. Eh bien, ma politique est très claire. Nous allons détruire ceux qui fabriquent des voitures au diesel et à l'essence.
Alors, annonce choc, mais dans les faits, pas grand-chose pour remplacer les véhicules sales. Il n'existe quasiment pas de borne de rechargement pour les électriques à New Delhi. Selon les Nations Unies, la pollution est responsable quand même de la mort prématurée de 7 millions de personnes dans le monde chaque année. Sur le plan économique, le coût global s'élève à plus de 200 milliards de dollars en coût du travail et à des trillions en coûts médicaux. Alors, un point positif quand même soulevé par Greenpeace, l'Inde est talonnée dans ce classement par la Chine qui occupe quasiment toutes les places de la 30e à la 50e, mais les concentrations de particules toxiques ont reculé entre 2017 et 2018. Pékin est la 122e ville la plus polluée sur la planète.
Et pour terminer ce rendez-vous sous les radars de l'actualité avec Amélie Perrier, on va réconcilier les hommes avec la nature, les femmes avec la nature même.
Oui, je vous emmène dans une piscine. Vous entendez l'ambiance?
Oui.
C'est la nouvelle passion des Malaisiennes.
C'est quoi ?
Eh bien, en fait, ces Malaisiennes, elles veulent nager comme des sirènes. Un centre donne des cours depuis peu. Les élèves en maillot, mais surtout avec une queue de sirène, font des ronds dans une piscine. Elles ondulent en apnée, les yeux grands ouverts, les jambes emprisonnées dans cette fausse enveloppe d'écailles. Alors, ce n'est pas si dur de porter une nageoire, dit celle-ci, et de nager comme une sirène. Elle est au micro de l'AFP. Et là, elle dit, le faire avec le plus de grâce possible, c'est quand même un beau défi, puisque la sirène est une belle créature qui ne voudrait pas être belle. Voilà la motivation de ces élèves sirènes. L'école a recruté 5 professeurs pour enseigner cette nage à environ 500 femmes. Alors, pas sûr là que ça fasse avancer la cause des femmes ou la cause de l'environnement, mais au moins, eh bien, c'est joli, on va se dire ça, Pierre.
Sous les radars de l'actualité, Amélie Perrier. Merci Amélie, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin, le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul,
Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Et voici l'escale reportage au Maroc à Fès, à la rencontre de femmes accompagnées vers leur émancipation grâce à un lieu de rencontre, le centre Bata, du nom du quartier où il se trouve à Fès. Le lieu est géré par une association féministe, Initiative pour la protection des droits des femmes. Alors, rencontre avec ces femmes qui sont passées du statut de victime à celui d'actrice de leur vie ou de militante dans un pays, le Maroc, qui a voté il y a tout juste un an une loi contre les violences faites aux femmes, loi qui ne fait pas l'unanimité. C'est un reportage de Nabila El Haddad. Nabila, en quoi ce centre-là à Fès s'éloigne-t-il de l'approche caritative appliquée dans d'autres structures de ce type au Maroc ?
La particularité de ce centre, c'est comme vous le disiez, son approche, qui n'a rien à voir avec l'approche caritative. Comme maintenant, c'est l'heure du déjeuner, Nouraïla et Fatima, moins de 30 ans, vivent ici depuis plusieurs mois. Elles préparent leur repas pour elles et leurs enfants avec des produits qu'elles ont elles-mêmes achetés grâce à une monnaie interne, un billet estampillé du nom de l'association. On écoute Mariem, l'intervenante sociale.
Ici au centre, chacun se prend en charge pour les tâches du quotidien. Comme maintenant, par exemple, elle prépare le repas pour aller son enfant, elle fait sa propre vaisselle, elle range dans le placard. Chacune fait comme ça. Ça, c'est l'emploi du temps que j'ai préparé. Quand elles ont accompli les tâches, je remplis les factures. Pour chaque tâche, un prix est fixé en fonction du temps. Il y a des choses qui se font en une heure, d'autres en deux ou trois heures. Chaque service a son prix. Ensuite, je note tout et je remets au comptable qui les paye.
Chaque service a son prix. Environ 10 euros, c'est le montant qu'elle gagne quand, par exemple, elle prépare du pain. Pour elle et d'autres bénéficiaires du centre qui ne dorment pas ici, mais qui viennent dans le cadre d'ateliers notamment. 10 euros, c'est deux fois plus qu'à l'extérieur, où les femmes sont moins bien payées que les hommes. Quel est l'intérêt ? D'abord, leur redonner confiance en valorisant leur travail. Ensuite, s'éloigner de l'approche caritative, puisqu'elles peuvent elles-mêmes définir leurs besoins. Être indépendantes, comme nous dit Latifa, 28 ans, mère d'un garçon d'environ un an.
Si quelqu'un me donne de l'argent, je serai reconnaissante. Et après, avec cet argent que je gagne et que j'utilise pour financer mes besoins, je me sens forte. Je sens que je le mérite parce que j'ai travaillé pour ça. Je me sens bien car je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un de m'aider ou de me donner quelque chose. Je fais un effort pour gagner cet argent moi-même, à la sueur de mon front. Je n'attends rien des autres.
Avec cet argent, en plus de petits boulots en dehors du centre, Latifa épargne pour préparer son projet de vie, louer un appartement pour elle et son enfant, se former à la pâtisserie et pourquoi pas lancer sa propre affaire. C'est le cas de Drissia, 48 ans, que l'on retrouve devant le tribunal de la famille de Fès. Elle et d'autres femmes dont elle a fait la connaissance au centre pendant une thérapie de groupe ont décidé de se réunir pour former le collectif Wilina Mounadilet, traduction « Nous sommes devenues militantes ».
On vient ici, nous les femmes, qui sont devenues militantes, pour aider les femmes. On reste debout avec elles, celles qui sont battues par leurs maris, qui ne les laissent pas aller en justice, qui ne les laissent pas travailler, qui ne les laissent pas arriver à une position importante. Ils viennent jusqu'au tribunal pour les frapper, il n'y a pas de sécurité, alors nous les accompagnons. Ça fait de nous des militantes. Vous voyez ce jardin ? Elles sont dedans, mais encerclées par un grillage. Nous, on les aide à franchir cette barrière.
Sophia ?
Quand Dricia n'est pas devant le tribunal, c'est chez elle qu'elle s'active, à préparer des petits pains vendus dans la rue, chose impensable à l'époque où elle était mariée.
Je suis passée par là. Je suis allée au commissariat avec des traces de coups et il m'a suivie. Il m'a suivie jusqu'à la porte. Quand je suis montée pour parler, le commissaire m'a dit « va à l'étranger ». Je ne faisais pas encore partie du groupe de militantes. J'étais toute seule. J'ai abandonné mes droits. Ce n'est pas à moi de faire la justice. Je suis allée me plaindre et je n'ai rien eu. Et c'est là que j'ai décidé de devenir militante.
Comme Dricia, beaucoup de femmes au Maroc abandonnent les poursuites par manque de moyens et de protection, malgré l'adoption il y a un an de la loi contre les violences faites aux femmes, une loi jugée insuffisante.
Voilà, reportage de Nabila El Haddad à Fès, au Maroc. Ode to Billy Joe, c'était une balade de Bobby Gentry en 1967. 40 ans plus tard, Molly Johnson en a fait une version jazzy. It was the 3rd of June, another sleepy, dusty Delta day. I was out chopping cotton and my brother was baling hay. Dinner time, we stopped and walked back to the house to eat. And Mama hollered out the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. Said he recollected when he and Tom and Billy Joe put a frog on my back at the Carroll County Picture Show. And wasn't I talking to him after church last Sunday night? I'll have another piece of apple pie. You know it don't seem right. Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? I've been cooking all morning, you haven't touched a single bite. Nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Said he'd be pleased to have dinner on Sunday. Oh, by the way. Molly Johnson en 2008 avec Ode to Billy Joe.
Le 18-20. Pierre Veil sur France Inter.
Et c'est l'heure du monde à l'envers avec Cyril Sauvageau. Cyril, Djibouti, Éthiopie et Kenya. Emmanuel Macron entame la semaine prochaine une tournée régionale de 4 jours en Afrique de l'Est. Il y sera question d'échanges économiques, de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi de coopération militaire. L'Éthiopie, ce géant africain en plein renouveau, envisage de se doter d'une marine nationale.
Mais vous allez me dire que c'est vraiment le monde à l'envers, mais c'est très sérieux. L'Éthiopie, ce pays enclavé sans aucun accès à la mer, veut développer des forces navales. Et il pourrait bien pour cela avoir besoin de l'aide de la France. Il en sera question lors de ce déplacement du chef de l'État auquel participe également la ministre de la Défense, Florence Parly. Mais pour bien saisir le contexte, un bref rappel historique s'impose. Si l'Éthiopie n'a plus accès à la mer Rouge, c'est une conséquence du conflit territorial avec son voisin, l'Érythrée, conflit qui a empoisonné leurs relations pendant un demi-siècle. Au moment de l'indépendance de l'Érythrée, au tout début des années 90, c'est ainsi que l'Éthiopie l'Éthiopie se retrouve donc privée de tout accès à sa façade maritime qui se trouve pourtant à 60 km à peine de ses frontières.
Oui, mais les choses sont en train de changer. Après des décennies d'affrontements, une page se tourne.
En juillet dernier, oui, moment historique avec la signature d'un accord de paix sous l'impulsion du jeune Premier ministre éthiopien, le réformateur Abiy Ahmed. Accord qui prévoit la reprise des relations diplomatiques, mais aussi des accès aux ports érythréens. Cette réconciliation soulève d'immenses espoirs dans la région de la Corne de l'Afrique et donne à l'Éthiopie, ce géant de 100 millions d'habitants, l'occasion de renforcer son influence régionale, influence politique, économique, mais aussi militaire.
Alors ce qu'il faut rappeler, Cyril Sauvageau, c'est que l'Éthiopie a été autrefois une puissance navale non négligeable.
Alors on ne va pas refaire toute l'histoire depuis la marine impériale au début du XXe siècle, mais c'est surtout dans les années 70 que la flotte se modernise sous l'influence de l'URSS, le parrain du régime marxiste au pouvoir à Addis Abeba. À l'époque, les officiers sont formés par la marine soviétique qui envoie sur place des instructeurs, du matériel, et Moscou en profite pour asseoir ses positions stratégiques entre la mer Rouge et le golfe d'Aden. Mais la guerre d'indépendance de l'Érythrée va rebattre les cartes. Les Éthiopiens, donc privés d'accès à la mer à partir de 1991, vont tout tenter pour sauver leur marine. Ils vont nouer des partenariats avec le Yémen, avec Djibouti, et proposeront même à l'Érythrée de former une sorte de marine commune pour se partager l'accès au port, demande rejetée par les Érythréens. Peu à peu, les navires tombent en ruine, certains sont envoyés à la casse, d'autres démantelés, jusqu'à ce que l'Éthiopie ne compte plus qu'un navire militaire, un seul, qui en plus ne navigue même pas en mer, mais sur le lac Tana, au nord-ouest du pays.
Alors le sujet est d'autant plus important pour Addis Abeba que la région de la mer Rouge est devenue d'une importance stratégique.
Et oui, depuis les années 2000 et le fléau de la piraterie au large des côtes somaliennes, cette zone est devenue extrêmement militarisée. Toutes les grandes puissances ont positionné des bases dans la région, qu'il s'agisse des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, des Émirats, de la Chine ou de l'Italie. Quant à la France, rappelons-le, sa principale base militaire en Afrique, eh bien, se trouve à Djibouti, aux portes de l'Éthiopie. Pour l'État éthiopien, l'enjeu est donc stratégique. Il s'agit de reprendre la main dans la région, de retrouver son aire d'influence naturelle dans la mer Rouge et la Corne de l'Afrique. Reste à trouver eh bien, des ports pour déployer ses futurs navires. Plusieurs accords portuaires ont déjà été signés avec le Soudan ou le Kenya. La France a un rôle majeur à jouer via sa présence à Djibouti, d'où l'importance des discussions qui auront donc lieu la semaine prochaine lors de ce voyage officiel. La France qui espère bien aussi tirer son épingle du jeu dans les contrats d'armement qui permettront demain à l'Éthiopie de se donner les moyens de ses nouvelles ambitions militaires.
Le monde à l'envers. Cyril Sauvageau. Merci Cyril.